s'invite de plus en plus dans l'actualité. On y prête davantage attention. Elle quitte le domaine du tabou pour conquérir celui de la hype. En témoigne l'immense succès de la série En Thérapie, mais aussi de nombreux livres qui nous promettent qu'en les lisant, nous allons nous sentir beaucoup mieux. Alors ce matin, j'ai voulu m'intéresser à un livre qui nous parle de notre inconscient et de ce qui peut se passer sur le divan d'une psychanalyste, mais qui ne nous promet pas qu'après l'avoir lu, notre vie va changer radicalement. C'est même une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie d'inviter son autrice ce matin. C'est pour la modestie avec laquelle elle parle de son métier de psychanalyste, la modestie des gens qui doutent. Alors, ça n'est pas la seule raison, évidemment, hein. C'est d'abord parce qu'elle nous fait entrer vraiment dans les coulisses de son cabinet, de ce qu'elle ressent face à ses patients, ses réussites, ses doutes, ses techniques de praticienne, et puis nous donner à percevoir la puissance de l'inconscient. Elle le fait avec humour, précision et pédagogie. Bonjour Sophie Cadalen.
Bonjour Charlotte.
Vous êtes psychanalyste à Paris, chroniqueuse dans les médias français, et vous signez donc L'aventure du divan aux éditions Philippe Ray, et vous racontez tout, ou presque, comment vous êtes devenue psychanalyste, le chemin parcouru par certains patients avec vous, et le chemin que vous aussi vous parcourez grâce à vos patients, les patients qui vous ennuient parfois, et les patients qui vous malmènent également. Alors d'abord, peut-être en quelques mots, qu'est-ce que la psychanalyse? Alors on sait qu'il y a un divan, qu'on doit s'allonger, mais c'est pas tout à fait la même chose qu'une psychothérapie, par exemple. La psychanalyse, en quelques mots.
Vous avez prononcé justement ce mot qui caractérise la psychanalyse, qui la distingue de la psychothérapie, de la psychologie et de la psychiatrie, c'est l'inconscient. Psychiatrie, on va s'occuper du corps, psychologie, psychothérapie, davantage du conscient, et la psychanalyse, son sujet d'étude, son sujet d'écoute, c'est l'inconscient. Alors évidemment, ces disciplines se croisent, les autres disciplines ne sont pas exemptes d'inconscient non plus, mais c'est vraiment l'écoute principale, le sujet principal, quel désir inconscient nous mène et quelle résistance inconsciente aussi nous empêche.
Alors pour savoir ça, ou en tout cas pour essayer de le percevoir, on s'allonge et puis on parle en essayant de parler librement, de faire des associations, de passer par tout ce qui nous traverse par la tête. Je vais faire une phrase un peu plus française, de dire tout ce qui nous traverse l'esprit. Vous écrivez d'ailleurs que les inconscients de l'analyste et de l'analysant se parlent pendant ces séances et parfois même à votre insu. Qu'est-ce que ça veut dire que les inconscients se parlent ?
Ah oui, c'est même pas parfois à mon insu, c'est tout le temps à mon insu. Et effectivement, vous avez précisé ce qui caractérise aussi la cure par la parole, en analyse. Ça répond à une seule règle, c'est dire tout ce qui passe par la tête. C'est-à-dire qu'on met de côté nos réflexes de conversation habituels, nos envies d'être intelligent, d'égayer l'analyste aussi en changeant de sujet. On ne va pas lui répéter les mêmes choses toujours. Ben si, en analyse, on répète, on passe du coq à l'âne, on digresse, on se perd aussi. Et dans cette espèce de cheminement, eh ben oui, on se croise, analyste et analysant. Si j'ai des préoccupations, c'est pas rare qu'effectivement l'analysant en parle très justement, me ramène peut-être aussi à mon écoute en m'alertant sur le fait que oui, si même j'ai des choses qui me préoccupent, ben non, il va falloir que je l'écoute lui, parce qu'il saura justement par quelque chose me ramener. C'est toujours étonnant et je ne cesse de m'en étonner encore.
Vous donnez beaucoup d'exemples hein, dans votre livre, Sophie Cadalen. Par exemple, le plus marquant, c'est quand vous perdez votre maman. Et que vous êtes peut-être un peu moins disponible à l'écoute et que tout à coup, vos analysants vous parlent de deuil alors qu'ils n'en parlaient jamais avant. On vous parle aussi même d'expérience médicale. Il y a un médecin qui est un de vos analysants et qui vous parle exactement de ce qu'a vécu votre mère juste avant de mourir. Et ça, d'après vous, c'est pas un hasard.
Non. J'étais effectivement dans cet état que l'on connaît, dans le deuil, dans le choc du deuil tout récent, cet état flottant. Alors, on parle d'écoute flottante en analyse, mais cette fois-ci, mon écoute flottait sans doute beaucoup trop. Et effectivement, son récit à ce moment-là, qui n'avait rien à voir avec ce qu'il amenait en séance, il était là plutôt pour des tourments de cœur, sentimentaux. Et puis là, il me parle d'une expérience de médecin, fondatrice, voilà, un raté qui ressemblait fort à celui qui avait causé la mort de ma mère. Et il me fait beaucoup de bien d'ailleurs en me racontant ça. Voilà, il était du côté du médecin et il finit son récit en me disant, je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. Moi, je le savais pourquoi il me racontait tout ça. Je ne lui ai pas dit évidemment parce que justement, le but n'est pas que, enfin en tout cas le but, je n'ai pas à m'immiscer dans leur vie en rame dans la mienne, ce que je fais un peu dans ce livre d'ailleurs, vous l'avez noté. Mais non, je l'ai accueilli comme quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a beaucoup troublé et ému, mais qui m'a fait beaucoup de bien. Bah oui, les patients aussi me font du bien à moi.
C'est une thérapie par la parole, donc hein, la psychanalyse. Et pourtant, il vous est arrivé, par exemple, d'avoir une patiente qui se taisait. Alors, elle continuait à venir, hein, mais pour se taire. Racontez-nous son histoire, Sophie Cadalen.
Oui, alors c'est cure par la parole, mais la parole pour être entendue, effectivement, elle est ponctuée aussi de silence, d'hésitation, de suspens. Quelquefois, on n'ose pas dire, quelquefois, on ne sait pas quoi dire. Mais alors celle-ci, effectivement, je la raconte très précisément dans ce livre, elle est venue, elle m'a raconté très factuellement son histoire, en quelques phrases, voilà. C'était vraiment l'inverse de se répandre. Puis elle s'est allongée, puis elle n'a plus rien dit. Et ça a duré. Alors j'ai essayé de la solliciter, j'ai questionné, j'ai relancé. À quoi pensez-vous ? À rien, était la réponse en général convenue. Et sans qu'elle s'en semble dérangée. Moi, je me demandais bien ce que je faisais là. Et c'était au début de ma pratique. Et j'ai finalement fini par me laisser faire. Elle revenait. Ça a duré quelques mois quand même. Et j'ai fini par me dire, bon, elle y trouve quelque chose, je ne sais pas quoi. J'ai l'impression de ne servir absolument à rien. J'ai l'impression que rien ne se passe. Mais son opiniâtreté, son espèce de sérénité à revenir a fait que je me suis laissée faire par son silence jusqu'à ce qu'un jour, je réalise que, en fait, elle est en train de parler. Et je raconte aussi dans le livre, je n'ai pas su à quel moment elle a commencé à engager cette parole, mais à un moment donné, elle parlait et elle n'a plus cessé ensuite. Une espèce de flot continu, cette association libre dont on parle, alors là, elle a plongé dedans après être restée au bord finalement très longtemps.
Vous écrivez que beaucoup de patients, à l'inverse, viennent vous voir pour parler, bien sûr, mais surtout pour changer quelque chose chez eux. Par exemple, se libérer d'une peur, ou bien être moins ceci, être plus cela, parfois parce qu'on leur a reproché certains traits de leur caractère. Et que finalement, ça n'est pas ça qui se passe après une psychanalyse. Qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qu'on peut en attendre à part de changer donc?
Oui, la position du psychanalyste, quand quelqu'un vient le voir, le rencontrer, la petite question que je crois on a tous, c'est, je reprends une phrase de Lacan qui dit, Jacques Lacan, le psychanalyste célèbre, qui disait, est-ce que je désire vraiment ce que je crois vouloir? C'est-à-dire qu'il y a effectivement une demande, je ne suis pas assez ceci, je répète les mêmes échecs sentimentaux, mon conjoint me dit qu'il faudrait que je sois plus calme, je n'arrive pas à m'organiser, des choses voilà, très concrètes, puis des souffrances tout à fait réelles. J'écoute cela et ensuite je vais écouter ce qu'il y a au-delà de cela. Et en général, enfin en général, c'est même à chaque fois, cette préoccupation est un peu poussée, elle se fait d'elle-même. Cette poussée, c'est le patient qui finalement s'engage sur d'autres chemins. Et la question en fait qui va courir tout au long d'une analyse, c'est mais pourquoi je veux changer? Pour qui je veux changer? Est-ce que ce fonctionnement vraiment ne me va pas? À quel endroit, effectivement, ma vie ne me convient pas? On dit en psychanalyse que le névrosé, c'est celui qui veut être normal. Alors, on est tous un peu névrosés, hein, convenons-en. Et justement, on va pousser ça en analyse en disant, on va pousser la norme, on va pousser le « il faudrait que je sois, il faudrait que j'arrive à ». D'ailleurs, on va pousser tous les « il faut », cela on les signale, pour écouter, mais comment je me sens, moi, de fonctionner dans ma vie, dans un style qui n'est que le mien.
Et à propos de votre rôle à vous, justement, Sophie Cadalen, vous écrivez qu'il ne faut pas avoir l'ambition de guérir les gens. Pourquoi c'est pas une bonne idée de vouloir guérir les gens?
Parce que déjà, ça me poserait, là je vais parler de moi, en position supérieure. Si je décrète que l'autre est malade, j'ai effectivement l'ambition à ce moment-là, le projet de le guérir. Sauf que justement, c'est tout ça qui est remis en question. Qu'est-ce que c'est la maladie? On parle effectivement beaucoup de santé mentale. Il y a quelque chose qui est indéniable et sur lequel personne ne peut discuter, c'est la souffrance. Mais la norme, c'est autre chose. Est-ce que j'ai la vie qui va bien dans le décor qui est le mien? Est-ce que je me comporte comme il faut? Ce sont autant de choses suspectes en psychanalyse. C'est vraiment ramener ça à l'intime de ma vie à moi, comme je la vis, comme je fonctionne. Je donnerai une image toute simple qui va, je crois, parler à beaucoup. Par exemple, le désordre. Il y a des tas de gens qui disent, voilà, mon bureau, c'est un vrai désordre, voilà, ça va pas du tout, il faut que j'arrive à le ranger. Oui, mais si dans ce désordre, je m'y retrouve très bien. Si dans ce désordre, je retrouve exactement le fichier, la feuille, le papier dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin, il n'y a aucun souci. C'est de quel ordre on parle? Celui que les parents ont essayé de nous insuffler, nous ont intimé, effectivement, auquel ils nous ont intimé d'obéir. Donc voilà, on sort de cette espèce d'ordre à être d'une certaine façon, au risque sinon d'être, entre guillemets, malade, pour se demander J'allais dire tout simplement, mais évidemment ce n'est pas si simple, mais est-ce que comme je fonctionne moi, ça me va? Est-ce que ça me profite? Ou est-ce qu'effectivement j'en paye des conséquences fâcheuses? Et dans ce cas-là, oui, il y a quelque chose à rectifier.
Vous êtes parfois critique dans votre livre « L'aventure du divan » vis-à-vis de vos collègues, tout particulièrement ceux qui interviennent dans des émissions de radio ou de télé, comme vous le faites aussi, hein, Sophie Cadalen, parce que vous trouvez que certains assènent des vérités, qu'ils répondent avec trop d'assurance aux questions qui leur sont posées. Qu'est-ce que vous leur reprochez exactement ?
Oui, je suis quand même gonflée hein, de faire cette critique-là, alors que moi-même, je suis là, avec vous, ce matin. Mais... voilà, c'est une position de savoir qu'on nous demande à nous, dit les experts, on nous appelle comme ça, je crois, dans les médias, on va appeler un expert pour telle question. Alors oui, on a une expertise, effectivement, l'expertise d'écouter l'humanité, de la voir évoluer, changer au fil des temps, des tendances, des cultures, mais est-ce que l'on sait pour autant ce qu'il en est, ce qu'il en sera? Encore une fois, est-ce qu'on peut prétendre une norme auquel il s'agit d'obéir? Non, on n'en sait rien, on accompagne. On accompagne ces mutations, on accompagne ces souffrances nouvelles, on voit d'autres qui disparaissent peu à peu, en tout cas qui sont plus si présentes, mais est-ce que nous sommes des oracles du futur? Absolument pas. Et j'ai une position, en tout cas, qui m'amuse et qui me permet justement de résister à la tentation, enfin j'espère, je pense que j'y arrive pas toujours, mais j'essaye de résister à la tentation du « je sais et je vais vous expliquer ce qu'il en est », mais c'est de répondre sur le « oui mais non ». Ce que l'on dit, ce que l'on assène, la vérité qu'on nous réclame, elle n'existe pas. C'est de mettre de la nuance, c'est de mettre du doute, c'est de mettre de l'ambivalence dans toutes nos positions qu'on voudrait effectivement extrêmement claires, radicales. Comment faut-il vivre? Comment faut-il être? C'est quoi le bonheur? C'est quoi l'amour? Et de ramener à chaque fois au sujet, à l'intime, en disant bah, c'est tellement, tellement vaste et tellement subjectif que je n'ai pas la définition, justement.
Il y a d'autres trucs hein, qui vous énervent, notamment les invitations à lâcher prise ou bien à prendre soin de soi. Pourquoi?
Oui. Bah, déjà, la phrase, elle est extrêmement, justement chargée d'injonctions. Il faut lâcher prise. Il faut s'occuper de soi. Il faut être bienveillant. Il y a beaucoup de « il faut » et d'être d'une certaine manière ce qui va nous tendre d'emblée. Et combien de fois j'ai entendu sur le divan, je voudrais lâcher prise, comment on fait? Ce à quoi je dis, je ne sais pas. Et de quelle prise parlons-nous? Et je reviens d'ailleurs sur l'épisode du confinement, qui justement a été extrêmement choquant, troublant, perturbant, dont les effets se vérifient encore. On n'en a pas fini, nous les psys, au-delà même des psychanalystes, de voir les conséquences. C'est que, en fait, il a été révélé à ce moment-là. J'ai entendu à ce moment-là, ça m'a confirmé mon énervement, c'est que le lâcher prise, cette jolie formule, elle est possible quand, au fond, on est dans un environnement extrêmement sécurisé. De dire « laisse-toi aller », c'est possible dans un environnement où on voit ce qu'il y a derrière nous, on voit ce qu'il y a devant, on voit ce qu'il y a à côté, puis on est plutôt installé sur quelque chose de moelleux. Mais le lâcher prise, au sens général comme ça du terme, qu'est-ce que ça veut dire? Et quelle est la prise dont on parle? Donc oui, ce sont des invitations. Alors, c'est gentil, c'est bienveillant, on voudrait tous lâcher prise. Mais pourquoi on n'arrive pas à lâcher la prise? Et quelle est la prise? Ce sont des questions autrement plus importantes et moins culpabilisantes que cette injonction, déguisée en conseil, auquel en fait on arrive très peu à obéir.
Ça fait partie des réflexions particulièrement intéressantes hein, qu'on peut lire dans votre livre « L'aventure du divan » où vous racontez donc votre quotidien de psychanalyste et puis ces réflexions donc, sur ce genre de thème. Sophie Cadalen, c'est sorti chez Philippe Rey. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.